Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on est content de vous retrouver ce dimanche matin sur l'antenne pour parler d'astronomie avec nous. C'est le 59e épisode de l'Étoile Polaire. Aujourd'hui, on est trois dans le studio. Fred qui vous parle, Axel et Pierrick.
Bonjour à tous.
Salut.
Alors, on espère que vous avez réussi à observer un petit peu le ciel. En ce moment, c'est pas folichon. On peut quand même reconnaître, on est en train d'en discuter là en antenne, que par exemple, on n'a presque pas vu Orion de l'hiver tellement elle était dans les nuages. Mmh. Ça nous chagrine un peu, mais bon, c'est comme ça. Alors, on vous rappelle qu'il y a toujours le podcast de l'émission que vous pouvez aller voir sur le site de RDWA, rdwa.fr. Dans les émissions thématiques, vous trouverez l'Étoile Polaire. Ce site, il est actuellement en travaux. Donc en fait, il n'y a que quelques émissions qui sont disponibles. L'intégralité des archives devrait l'être d'ici quelques semaines. Voilà, on espère que ça ne prendra pas trop de temps. En tout cas, vous pouvez retrouver les dernières émissions qui sont en ligne avec les photos illustrées par l'équipe. Alors, cette semaine, de quoi est-ce qu'on va parler ? Eh bien, on va commencer avec le ciel ce soir, toujours hein, la description un peu des constellations qui sont visibles lorsque le soir tombe. Pardon. On va y arriver. Ensuite, on parlera de quelques actualités du monde de l'astronomie. Et puis, je ferai une petite rubrique sur ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Alors voilà, on découvrira ensemble tout à l'heure. Eh bien, c'est parti. On va commencer avec le ciel ce soir.
Oui.
Et avec ce qu'on peut observer si on a la chance de passer à travers les nuages.
Eh bien oui, alors qu'est-ce qu'on peut observer ? On parlait d'Orion, effectivement, qui est encore là quand même, même si elle se couche très tôt. Quand la nuit tombe, elle est déjà passée au méridien, c'est-à-dire à sa position la plus haute. Dans le ciel, mais on a encore quand même de belles étoiles à voir, avec Sirius, avec Procyon qui suivent, qui elles sont plein sud à 20h quand le ciel est bien sombre, même à 19h30.
Sirius, hein, un petit rappel que c'est l'étoile la plus brillante du ciel dans le grand chien, ouais. Et on la trouve en fait en suivant l'alignement décrit par les trois étoiles de la ceinture du Baudrier d'Orion.
Ah oui.
Si vous suivez
trois
étoiles alignées, ouais. Si vous
en descendant vers l'horizon, vous tombez sur Sirius.
Exactement. En descendant du coup, on va dire vers la gauche, du coup, si on regarde, ça fait tomber sur Sirius, qui est effectivement le phare le plus brillant du ciel.
Ouais. Jupiter, elle est là, pareil, à 19h30, elle est encore un peu là, à l'ouest. Elle se couche vers 23h, quelque chose comme ça. Si vous avez un bon horizon ouest dégagé, pile à la tombée du soleil, au coucher du soleil, il y a Mercure qui apparaît derrière, quelques minutes, une dizaine de minutes tout au plus, un petit point qui suit le soleil dans son coucher. Et à l'inverse, au matin, un peu avant 7h, on peut voir Vénus, jusqu'à ce qu'elle baigne complètement, qu'elle disparaisse dans les lueurs des aurores matinales. Voilà pour les planètes. Saturne est complètement trop proche du Soleil, donc invisible en ce moment. Il faudra attendre cet été. Et puis en termes de constellations, je voulais faire un petit point sur les Gémeaux, qui sont la constellation qui est au plein sud à 19h30, 20h, quand le ciel s'assombrit. Ces fameux Gémeaux qui sont connus depuis bien avant les Grecs, c'est une constellation qui date de l'astronomie babylonienne, mésopotamienne, qui voyait déjà plus ou moins deux bonhommes là-dedans, c'était les portiers de l'enfer, tous les deux. Ça a été récupéré par les Grecs, là on est en 1500 ans avant Jésus-Christ quand même. Donc, c'est quand même une histoire de ces jumeaux, ces deux bonhommes, qui n'étaient pas forcément jumeaux à l'époque, mais qu'on se transmet depuis 3000, un peu plus de 3000 ans, quand même pas mal.
Ce qui est sûr, c'est que quand on observe la constellation elle-même, bon, ça forme une espèce, on va dire, de rectangle un peu allongé. Il y a surtout deux étoiles en fait qui sont bien brillantes, Castor et Pollux, et qui sont c'est assez proche dans le ciel. C'est vrai que ces deux étoiles-là, d'instinct, quand on regarde le ciel, on a envie de les mettre ensemble.
Ouais.
On les repère facilement, elle, je trouve. Ouais.
C'est une paire qui quand même ressort, parce qu'on va se dire, bon, deux étoiles brillantes, il y en a quelques-unes dans le ciel. Oui, mais non, là, mais quand même, il y a quelque chose qui les unit, qui donne envie de les mettre dans le même dessin.
Ils sont assez proches.
Pour vous aider à les trouver, bon, j'ai dit que c'était au sud au moment où le ciel s'assombrit, mais on a parlé juste avant de Sirius, l'étoile la plus brillante dans Le Grand Chien. Si on remonte un peu, on a une autre étoile assez brillante qui est Procyon dans Le Petit Chien. Et si on continue à monter vers le haut du ciel, et ben c'est là qu'on trouvera ces deux étoiles, Castor à gauche, je crois, oui, et Pollux au-dessus.
On a toute cette zone, effectivement, tu l'as dit, tu as le Orion qui se couche pas, mais bon, qui quand même se prépare à se coucher en début de nuit. Et aussi, juste au-dessus, on a le Cocher. Et on a aussi toutes ces zones, en fait, avec le Taureau. Et puis, donc, dans le Taureau, les Pléiades. Oui. C'est cette espèce de petit amas flou, là, de mini-grand ours qui est là et qui est quand même bien repérable. Donc on a quand même une partie, tout le début du zodiaque, en fait, qui est assez visible en ce moment. Oui. On arrive même à voir le Bélier, il me semble, en tout début de nuit. Et ensuite, on continue avec le Taureau, les Gémeaux, et on a quand même le Lion. Ouais. Le lion qui
le
est
cancer entre les deux,
puis et le cancer en fait. Entre les deux, ouais. Avec l'amas de la crèche là, qui est aussi une petite nébulosité dans une zone assez vide,
oui, qui a l'œil nu, qui attire l'œil un peu, enfin
qui en fait est dans le cancer.
Ouais, tout à fait.
Un cancer, constellation un peu diffuse hein, quand même.
Mais celui-là, il se résout aux jumelles.
Oui, ah l'amas aux jumelles, ouais, il est très bien, il est super aux jumelles.
Ouais, il apparaît fort. Ouais.
Mais je trouve que c'est un beau... Moi, j'aime beaucoup cette partie-là du ciel. C'est assez beau, quoi. Ouais. Et le lion, pour vous aider à le trouver, en fait, il est vraiment... Quelque part, il est vraiment sous la grande ours, mais assez loin.
Ouais, c'est
mais
ça. Si, ouais.
Mais il est vraiment dessous, sous en fait. Un peu orienté pareil, en fait.
Ouais.
Si vous prenez la casserole dans le sens où vous avez l'habitude de la voir. Alors, en ce moment, il faut vous tourner un peu parce qu'on est dans cette phase dont on a déjà parlé où la casserole, elle est un peu verticale et donc on a un peu une sensation de point d'interrogation, même si c'est un peu en train de passer là. Et donc vous avez à l'inverse le W de Cassiopée qui rase l'horizon. Et là, bah, vraiment sous la grande ours, vous descendez et vous trouvez le lion. Alors le lion, c'est une sorte de grand, comment on appelle ça, une sorte de grand parallélogramme un peu étrange, un grand trapèze plutôt en fait. Et puis il y a une tête là, cette tête en courbe.
Ça ressemble bien à un animal,
qui est assez acrigulus, donc l'étoile bien brillante. Mmh. Voilà, donc ça, c'est quand même le parcours un peu du ciel au moment du coucher de la nuit et des constellations d'hiver qu'on peut observer en ce moment.
Tout à fait. En parlant du lion, si le ciel le veut, comme on dit en astronomie, si après l'enregistrement de cette émission, il reste dégagé, eh bien, ce sera peut-être le triplé du lion qui illustrera le podcast.
Ça serait bien.
Croiser les doigts pour moi.
Bonne chance.
Trois galaxies qui se trouvent là sous le lion.
On te le souhaite. Ouais, près du lion, bah, de toute façon, zone très riche en galaxies vers là-bas. Mm-hmm.
Et dans les Gémeaux, peut-être vous vous souvenez, l'été dernier, je crois, on avait pu observer un amas globulaire très lointain qu'on appelle le voyageur intergalactique.
Le vagabond intergalactique, ouais.
Qui est un petit amas globulaire, enfin qui paraît petit, mais qui en fait est énorme. Mais c'est sa distance.
Qui est extra-galactique, hein, celui-là.
Ouais, qui est dans la périphérie.
Alors déjà que les amas globulaires, d'une façon générale, sont en périphérie, ils sont autour des galaxies. C'est un peu comme des mini-galaxies, toutes mini-galaxies, quoi. Puisqu'il y a quoi, 10 000 étoiles, quelques dizaines de milliers d'étoiles. Mm-hmm. Donc il n'y en a pas énormément, mais elles sont c'est plutôt situé autour de la galaxie, en fait. Ah ouais. Très près, mais plutôt autour. Et là, celui-là, en fait, il est entre deux galaxies, si la mémoire est bonne. Ouais.
Je crois que c'est ça. Et il s'appelle NGC 2419, si vous voulez vous amuser à le chercher. Pour ceux qui sont équipés, là, on ne pourra pas le voir aux jumelles, parce qu'il est de magnitude 10 environ. Mmh. Mais
il faut le télescope pour le voir.
Ouais. Mais ouais, c'est celui-là, je me souviens de partie de Pollux. Il est entre les Gémeaux et le Lynx, qui est au-dessus, une constellation quasiment invisible, le Lynx. Mais...
Je te félicite, parce que franchement, le vagabond, il faut quand même aller le chercher. Il est vraiment dans une zone assez sombre, où en fait, il n'y a pas beaucoup d'étoiles brillantes pour se repérer. Il est quand même pas facile à accrocher. Ouais.
En tout cas, c'est Pollux qui nous aide à aller le trouver.
Ça mais fait partie du jeu de l'astronome amateur de chercher des objets... parfois très difficile parce que sans repère le chercheur autour ou très peu.
Il se trouve à quelques 300 000 années-lumière de nous.
C'est ça, parce qu'on voit que la distance entre deux galaxies, c'est grosso modo de l'ordre du million d'années-lumière. Donc là, on est un peu entre deux. Quoi.
Ouais.
Et moi, j'aime bien ces objets comme ça. Ça fait rêver, en fait. Il est là, il est entre... Déjà, l'espace, c'est grand, l'univers, c'est grand, mais... On est dans l'espace vide, entre les structures. Ouais. Là, on est dans quelque chose de quand même assez mystérieux.
Il y a des petits recoins qui se trouvent, même dans l'espace, il y a des zones un peu cachées, des endroits. Ouais.
Et de la même façon, les étoiles, normalement, sont toutes regroupées dans des galaxies, mais on a détecté des étoiles qui n'appartiennent pas à une galaxie. Donc, soit elles s'en sont échappées, soit on ne sait pas trop, mais il y en a très peu. Mais il y en a. Alors, on n'a pas encore trouvé de planète
errante.
Mais on peut imaginer en fait, qu'il y a plein de choses qui errent plus ou moins.
Tout à fait, c'est imaginable.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est des objets qui font un peu rêver.
En parlant de ces objets qui errent, là, ça me fait penser à ce que je voulais vous parler, ces espèces d'astres qui sont compagnons de la Terre ou de tout corps céleste, qui ont des orbites un peu en fer à cheval. Qu'on appelle des quasi-satellites qui orbitent autour de planètes un peu en même temps. C'est comme si on avait un corps à côté de la Terre qui tournait un peu autour du Soleil en même temps que nous. Donc, c'est pas tout à fait la même orbite, mais il y a cette idée-là qu'on a un compagnon qui tourne avec nous autour du Soleil. Donc, on appelle ça des quasi-satellites parce qu'ils ne tournent pas autour de nous comme la Lune. Mais qui sont quand même là, présents d'une autre manière. Et ces corps-là, donc c'est des astéroïdes de quelques kilomètres de diamètre. Il y en a pas mal, en fait. Autour de la Terre, on en a recensé une dizaine. On en trouve fréquemment autour des planètes. Donc, ils ont une orbite en fer à cheval très particulière, en fait. Ils tournent autour du Soleil. Et ils tournent un peu autour de nous, en fait, à force des centaines d'années de cycles. Ils obtiennent des orbites particulières, mais ce n'est pas stable comme orbite. Au bout d'un moment, ça se fait éjecter de la Terre. Voilà, ça revient un peu à l'idée d'avoir toujours... Il y a plein de choses qui se baladent, en fait, là-haut. Et il se passe toujours plein de choses autour de nous.
Il y en a un quasi-satellite qui a une histoire un peu marrante qui se trouve être quasi-satellite de Vénus, donc pas tout à fait une lune de Vénus, et qui s'appelait à la base, avec un nom barbare, comme savent le faire les astronomes, 2002 VE, et il a été renommé tout récemment, parce que sur une carte dessinée, vraiment un dessin fait pour afficher dans la chambre des enfants, c'est ça l'histoire d'ailleurs, c'est un mec qui s'y connaît un petit peu, qui a vu dans la chambre de son fils une carte du système solaire, et puis il a vu cette lune autour de Vénus, il s'est dit, ah bon, mais Vénus a une lune qui s'appelle Zouzvé, c'est bizarre, et il a remonté le fil et en fait il s'est rendu compte que c'était une faute de frappe, parce que le 2002 est devenu, les deux sont devenus des Z, et donc il a contacté l'auteur de ce dessin, il dit, mais c'est quoi ce Zouzvé? Il dit, bah je sais pas, j'ai vu ça là, et puis bon, petit à petit ils ont trouvé que c'était 2002 VE, mais l'UAI a officiellement dit, suite à ça, que maintenant ça s'appelait Zouzvé, ce quasi-satellite de Vénus. Juste pour que la fiche dans la chambre de son fils soit correcte.
Reste correcte.
Oui, parce que Vénus n'a aucun satellite comme nous, comme la Lune.
Non,
Donc voilà, ça a quand même un quasi-satellite.
Mais ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à un truc que j'ai lu là sur des astéroïdes qui sont dans la ceinture de Kuiper ou un peu au-delà. En tout cas, à peu près au niveau de Pluton ou derrière. Et qui sont en résonance avec Neptune. C'est-à-dire que Neptune, c'est quand même une assez grosse planète. Donc, c'est la dernière du système solaire. Et donc, en fait, elle a un vrai impact sur tous les corps transneptuniens, donc tout ce qui est ceinture de Kuiper, etc., qui sont derrière. Et apparemment, elle a des astéroïdes qui sont en résonance avec son orbite. Donc, ça veut dire que quand elle se déplace, bah, y en a qui se déplacent en gros avec elle, plus loin, sur une orbite plus loin, mais ils se déplacent en même temps alignés avec elle et le Soleil. Et d'autres qui sont en résonance, c'est-à-dire qui vont faire genre deux tours quand elle en fait trois. Ou, enfin, c'est des résonances gravitationnelles comme ça. Et que c'est, là aussi, c'est un champ d'études qui commence à se développer, mais beaucoup au-delà de Neptune. Quoi.
Mmh. Il y a beaucoup de corps derrière là-bas.
Ouais, il y a tout un tas de trucs dans cette ceinture de Kuiper. Et pour l'instant, il y a évidemment aussi la planète X. Hein, qui est
la fameuse planète.
Il y a quand même plein de gens qui pensent que, voilà, que par le calcul, en fait, il y aurait encore une planète qui serait, bah, pour le coup, du côté de la ceinture de Kuiper, donc de toute façon assez loin, mais qui pour l'instant n'a pas été détectée. Mais ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait un corps encore à découvrir dans le système solaire d'un peu massif, quoi.
Oui.
C'est possible. C'est très dur à observer parce que c'est très sombre.
Oui,
et c'est pour ça qu'on trouve pas ou peu ou pas souvent.
Ouais.
C'est quand il y a des occultations, souvent, quand ça passe devant une étoile ou le soleil. Ou...
En fait, il faut savoir où chercher pour les trouver. Voilà. C'est comme ça qu'ils avaient trouvé quand même Neptune. Neptune et Pluton, ça avait été par le calcul que ça avait été déduit.
Oui.
Donc, Uranus depuis les perturbations, Neptune depuis les perturbations d'Uranus, oui, et Pluton depuis les perturbations de Neptune.
Mais là, c'est des objets petits qui sont, par le calcul, c'est...
Bah, Pluton, c'est pas fou. Hein.
Pluton, je dis pas, mais les astéroïdes et les quasi-satellites sont...
Ouais, ils sont plus petits.
Ouais, bon, peut-être, hein, mais...
Mais tout ça va se développer.
Mais oui, façon. Voilà.
Ça c'est sûr. Ouais. Et puis, de toute façon... Ouais. Et même la ceinture d'astéroïdes, qui est quand même plus proche, déjà avec des corps comme Cérès, c'est vraiment intéressant aussi, à aller voir tout ça.
Des planètes, mini-planètes.
Il y a clairement un avenir de l'étude des petits corps dans le système solaire. Et ils vont aussi vachement nous renseigner sur l'origine du système solaire, sur sa formation, sur tout ça. Ça, c'est sûr que ça va encore faire des booms.
En parlant d'exploration, je vais vous parler aussi de la sonde Odysseus M1. Là. Donc ça, c'est une sonde américaine, mais privée. C'est pas la NASA qui l'a envoyée, c'est une mission privée qui s'appelle Intuitive Machine.
Et c'est pas Minsk, quoi.
C'est encore autre chose. Et alors, ils étaient tout contents, tout s'est bien passé. Elle a atterri sur la Lune. Ça y est, les Américains sont retournés sur la Lune depuis les années 70. Voilà, ça a fait tout un truc. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'elle a dû atterrir un peu trop vite. Et en se posant, elle a dû casser un de ses pieds d'atterrissage. Ce qui fait qu'elle a basculé et que finalement elle est couchée, elle est allongée sur la Lune.
Et donc c'est mort.
Et donc, bah,
on peut rien faire
donc
avec.
Les panneaux solaires se déplient mal et donc la batterie se vide et donc c'est foutu.
C'est ce qu'on appelle un échec.
Et donc voilà, donc, encore une fois, c'est fou comme les missions Apollo, tout ça, on a réussi vachement et là c'est toujours aussi complexe d'arriver sur la Lune entier. Malgré qu'il y en a plein qui arrivent, hein. Les Chinois, ils arrivent bien.
Ben là, dans les deux dernières années, il y a quand même...
Les Chinois, ils cartonnent.
Il y a pas mal de monde qui a réussi à l'unir.
Les Russes, ils se sont crachés. Le Japon a réussi.
L'Inde ?
L'Inde a réussi.
L'Inde a réussi. Aussi.
Ouais. Donc ça commence à faire quand même des gens qui...
Mais je crois pareil, l'Inde, il s'est cassé la gueule, le truc. Il est tombé, il a roulé un peu. Non,
c'est
pas lui ?
Non, je sais plus.
Je crois que c'est lui. Hein.
Il me semble qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé, mais...
Ouais.
Ouais, et on l'oublie un peu, mais c'est quand même, ce chiffre m'a surpris, c'est qu'en ce moment même, là, à l'heure où je vous parle, il y a 14 personnes en orbite au-dessus de nous, il y a 14 personnes dans l'espace. Ce chiffre m'a paru assez balèze quand même.
Donc tu parles là de l'ISS, Station Spatiale Internationale et de la station chinoise, c'est ça ?
Ouais, voilà, donc ils sont 3 sur la station chinoise et les 13, et les, qu'est-ce que j'ai dit ? 14, les 11 autres, ils sont dans l'ISS.
C'est combien déjà l'orbite? 300 km non,
Oui, c'est ça, 350.
Ouais. Autour de 300 km. Hein. Ouais. Donc on est quand même sur des orbites très proches de la Terre.
Et ouais, il faut imaginer toutes ces personnes, bah, il faut qu'elles vivent dans l'espace, donc il y a toujours une rotation de vaisseaux, d'amener de la nourriture, d'organisation qui est conséquente en fait. Et voilà, je voulais juste rappeler ça, qu'il y avait quand même du monde dans l'espace. Et en ce moment, il y a deux Saoudiens dans l'espace, dont une femme. Voilà, je voulais juste mentionner ce détail. Ouais.
Et ben merci pour ces actus. Moi, j'en avais.
Il y aura des Indiens peut-être aussi. Bientôt, ils ont dévoilé les quatre premiers astronautes indiens issus vraiment de leur programme spatial de l'ISRO et qui voleront sûrement dans leur future capsule qui s'appelle Gaganyaan, qui veut dire vaisseau céleste en sanskrit. Voilà, ils sont en train de préparer les vols habités maison, parce qu'il y a déjà eu des Indiens envoyés via la NASA ou des choses comme ça. Mais là, avec leur propre vaisseau, leur propre lanceur, c'est en cours. En tout cas, voilà, on connaît le nom que je ne vais pas déformer, hein, parce que je ne parle pas très bien indien. Mais voilà, quatre astronautes indiens, quatre hommes, tous issus de l'armée de l'air de leur pays.
Pour changer. Ouais.
Oui.
Ça, c'est le gros avantage.
Les scientifiques, on verra après.
Ouais, scientifiques, ouais. On verra après. Le jour où les extraterrestres débarquent, les premières personnes qu'ils rencontreront, c'est des militaires. Je ne sais pas trop s'il faut s'en inquiéter ou s'en réjouir. Enfin, bref. Moi, j'avais une petite actu aussi. Alors là, on est plutôt dans l'observation. C'est la découverte, en fait, d'une nébuleuse. C'est un rémanent d'un reste de supernova. Donc, on est un peu comme les dentelles du cygne, hein, sur des structures de filaments gazeux luminescents. Et en fait, il faudrait que vous voyez la photo là par la radio, c'est pas possible, mais c'est vraiment très beau et c'est très grand en fait, très étendu. C'est une des troisièmes, je crois que c'est la troisième la plus étendue du ciel, cette nébuleuse. Et voilà, il a fallu quand même. Donc on vient de la découvrir en fait, on était passé à côté parce qu'elle est très faible, très étendue. Il a fallu 250 heures d'observation avec je sais pas combien d'instruments répartis sur trois continents. Plus du traitement derrière, etc., pour arriver à sortir une image. Donc, je vous invite à aller la voir. Ces images, elles sont disponibles en ligne. C'est la nébuleuse des Néréides, qui est dans la constellation de Cassiopée. Voilà. Et je vous engage à aller voir cette photo parce qu'elle est vraiment très belle. Et je trouve ça vraiment chouette d'entendre qu'on découvre encore, en fait, des objets, des gros objets, en fait.
Oui, en plus. Ouais,
parce que sinon, on va découvrir la petite planète, la petite étoile, la petite galaxie, machin, magnitude 37, que de toute façon, on ne verra jamais. Okay. Et là, on découvre quelque chose de gros. Et c'est effectivement, l'année dernière, il y avait eu aussi cette découverte là, d'une espèce de nébuleuse noire, sombre, là, de structure, en fait.
Bleuté même d'oxygène. Là, ouais.
C'était assez étrange aussi, ces structures-là.
Au-dessus de la galaxie d'Andromède.
Ouais.
Enfin non, en apparence en tout cas au-dessus. Ouais.
Et à côté desquels on était jusqu'à présent passé, quoi. Donc on découvre encore des trucs.
Mais oui.
Ça c'était ça le message.
On n'aura jamais fini. C'est bon pour le.
On va faire une petite pause musicale.
Ah oui.
Donc cette semaine, ça va être Lou Reed avec son morceau Satellite of Love et on se retrouve juste après.
Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone. Way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite.
that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
Retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDVOI. Alors on va continuer un peu le déroulé de cette émission avec une partie sur le paradoxe de Fermi. Alors, qu'est-ce que c'est donc cette affaire ? Déjà, Fermi, c'est quelqu'un. C'est un scientifique. Enrico Fermi, tout à fait. Enrico Fermi qui est né au tout début du XXe siècle. Et qui est quand même pas n'importe qui. Hein. Fermi, il a eu le prix Nobel en 1938 de physique pour ses travaux en fait sur la fission contrôlée. En fait, tout simplement, c'est un des précurseurs, voire quasiment un des inventeurs du réacteur nucléaire.
Ok.
Et il a aussi travaillé sur le projet Manhattan,
évidemment,
à l'époque. Donc, il fait partie de toute cette génération de physiciens. Théoricien et expérimentateur, c'est aussi une de ses particularités, puisque c'est pas souvent en fait que les physiciens font les deux. Et lui, c'était son cas. Il a à la fois développé la théorie.
C'est pas un théoricien quoi.
C'est un théoricien et un expérimentateur. Ouais. C'est un physicien complet. Et il a été capable en fait de développer la théorie, donc la théorie nucléaire. C'est de la mécanique quantique avancée, physique des particules pour parler de fusion, de fission nucléaire. Donc fission, hein, je rappelle, quand on casse un gros noyau en fait en bombardant avec des neutrons, typiquement de l'uranium. Et ça va casser le noyau, ce qui va former d'autres éléments chimiques plus légers et dégager de l'énergie, énormément d'énergie. Donc voilà, en tout cas, voilà pour placer un peu ce monsieur Fermi. Et donc, il a un paradoxe. Alors, le paradoxe de Fermi, c'est quelque chose d'assez connu et qui, en fait, concerne la possibilité et le questionnement de la vie, sur la vie extraterrestre. Donc, l'histoire du paradoxe de Fermi, ou en tout cas, la petite histoire, parce que ce n'est pas aussi clair que ça, apparemment, ça se passerait en 1950 pendant un repas. Je ne sais plus dans quel université ou laboratoire quelconque. Et donc, à la fin du repas, ça commence à partir en discussion. Et donc, Fermi, qui à un moment dit « Mais where is everybody ?» quoi, en anglais. Donc, ça veut dire, on pourrait traduire ça par « Où est tout le monde ?» Où sont tout le monde ?» Et en gros, cette idée derrière, c'est puisque l'univers il est tellement grand, puisqu'il y a autant d'étoiles, puisqu'il y a autant de structures comme ça qu'on observe, comment ça se fait qu'il n'y ait pas une seule civilisation extraterrestre avec laquelle on soit entré en contact. C'est ça le paradoxe de Fermi.
Comment c'est possible, ou même détecté,
d'une façon ou d'une autre, comment ça se fait en fait qu'il n'y ait personne en apparence, en tout cas autour de nous, alors que on a un univers aussi vaste et que aussi ils ont cette vision quand même de scientifique de dire il n'y a aucune raison qu'on soit exceptionnel. Il n'y a aucune raison que l'homme soit le centre de l'univers, que la Terre soit exceptionnelle. Il n'y a aucune raison de tout ça. Donc forcément, il doit y en avoir. Alors, voilà. Et ce n'est pas le cas. Donc en fait, ça, c'est une question qui est, qu'on pourrait qualifier... en fait, qu'on peut prendre sous différents aspects. Ça peut être un peu philosophique, mais en fait, là, l'idée, c'est de voir ça aussi d'un point de vue scientifique. Ils ont commencé à chercher, à essayer de trouver de vrais arguments pour discuter de cette question, parce que c'est vrai qu'on peut comme ça l'éluder en disant bon, parce que c'est comme ça, oui, bon, d'accord, mais on peut aussi essayer de chercher un peu plus loin, et c'est peut-être pas forcément ça, peut-être pas forcément nous amener des réponses plus précises, puisque de toute façon il y en a pas, vu que de fait on n'a pas détecté, oui. De voilà, et qu'il y a rien à discuter autour de ça.
C'est plutôt des réflexions.
Mais c'est plutôt des cheminements, des voilà. Réflexions, ouais. qui permettent d'aller dans des pistes qui sont un peu intéressantes. Quoi. Donc j'avais envie de parler un petit peu de ça aujourd'hui. Alors d'ailleurs, je mentionne que cette discussion à table, hein, en 1950, avec Fermi, il y aurait eu Carl Sagan en face de lui. À ce moment-là, ouais. Mais c'est pas en fait, il y a, c'est vraiment, c'est devenu une espèce de petite légende, oui, urbaine, ça, cette, ouais, discussion. Ils ont aussi difficile d'avoir confirmation des gens qui étaient là ou pas là ou machin. Bon, après c'est pas très important en réalité, mais en tout cas le cadre est posé. Alors il y a quand même des petites réflexions, moi, que j'ai trouvé pas mal. Déjà, ce qui se dit quand même, il fait un petit calcul là comme ça de tête. Fermi, et il essaye d'évaluer le temps qu'il faudrait à une civilisation pour coloniser la galaxie. Ah oui. Et il dit, même si on prend une vitesse assez faible, il dit 1% de la vitesse de la lumière. Donc il n'y a pas besoin en fait, de dire qu'on est capable de déplacer les vaisseaux à la vitesse de la lumière pour, ouais, en réalité...
Oui, on prend le temps.
Et voilà, la question, c'est le temps. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'en quelques millions d'années, une civilisation est capable d'essaimer à travers toute la galaxie.
En quelques millions d'années ?
Ouais. Or, on rappelle que...
C'est assez rapide.
Oui, à l'échelle astronomique, c'est assez rapide, en fait. C'est bien ça, le problème. C'est que du coup, pourquoi ça ne se passe pas, quoi ?
À l'échelle civilisationnelle, c'est...
Alors,
c'est autre chose.
Voilà, il y a d'autres, effectivement.
On n'a qu'un autre exemple terrien, mais...
Oui, non, mais enfin, même quand je dis civilisationnel, je ne parle pas forcément de société telle que la société qu'on connaît aujourd'hui, et puis celle des Romains avant, et ainsi de suite, mais rien que l'évolution
Terre,
de la vie. Il y a 2 millions d'années, la vie sur Terre, c'est pas la même qu'aujourd'hui.
C'était bon. Pas la même, mais en même temps, pas si différent
non,
que ça.
Pas
l'humain,
plus,
c'était pas ce qu'on va appeler l'Homo sapiens, mais il y avait déjà
l'Australopithèque. La planète était là,
oui,
la planète Terre était là, elle était vivable.
Elle était habitée.
Voilà, ouais.
Oui.
Ça pourrait.
Les dinosaures étaient déjà éteints.
Oui, et puis surtout, j'allais dire, les dinosaures ont vécu plusieurs millions d'années, donc s'ils avaient développé des vaisseaux en quelques millions d'années, ils auraient pu effectivement aller loin.
C'est ça. Alors,
peut-être qu'ils l'ont fait.
En réalité, vous voyez, quand on dit cet argument, on dit imaginons une vitesse de la lumière à 1% et on va essaimer la galaxie. Ça semble quelque part couler de source comme raisonnement, mais en réalité, pas du tout, parce que déjà, il y a un premier argument là que j'ai trouvé intéressant, c'est de dire, en fait, une culture basée sur la croissance n'est pas stable. C'est-à-dire qu'une culture n'est pas forcément extensive. Une culture ne va pas forcément avoir tendance à prendre tout l'espace possible. Quoi.
Ça, c'est aussi très notre espèce humaine.
Exactement. C'est nous qui voyons les choses comme ça. On se dit, forcément, si on se développe, alors on va plus loin. Mais en réalité, c'est vrai quand on regarde certaines sociétés, ce n'est pas le cas. En réalité, c'est très spécifique aux Européens, quelque part.
Cette idée de colon, c'est un mélange
de progrès, de domination, de conquête. C'est un amalgame de tout ça et qui est très ancré quand même dans notre mentalité. Quoi.
Bien sûr. Ouais.
Mais c'est humain, je dirais, c'est pas que occidental, c'est humain.
Ouais.
Mais c'est pas forcément une fatalité de toutes les formes de vie de l'univers. En tout cas, on peut l'espérer quelque part. Mais ça pose déjà une première question de dire, si ça se trouve, en fait, si on est basé sur la croissance, alors on va forcément épuiser les ressources. Et que donc, de toute façon, il y a des gens qui disent, en fait, une des réponses possibles au paradoxe de Fermi, c'est de dire qu'en réalité, une civilisation qui ne fait que croître, que se développer, n'est pas viable parce qu'elle épuise les ressources. Donc, de toute façon, les seules civilisations qu'on peut avoir, c'est des trucs qui sont restés localisés et qui sont difficiles à détecter.
Et qui vivent pas longtemps.
Parce qu'ils n'ont pas bougé.
Alors,
après, il y a la question de l'échelle de temps d'une civilisation qui se pose aussi. Ouais. Mais au-delà de ça, selon nos critères humains, il donne une espèce d'ordre de grandeur de millions d'années pour qu'une civilisation se développe, essaime, etc. Ça, c'est notre raisonnement à nous. Déjà, ça, c'est vrai qu'on ne peut pas transposer, on ne sait pas. Il y a aussi toute cette question, en fait, du rythme et du temps d'une autre civilisation. On en a déjà parlé, mais par exemple, peut-être que cette forme de vie, pour respirer, il lui faut 10 000 ans. Donc pour dire un mot, il lui en faut 1 000 000. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais on peut très bien imaginer des choses où, en fait, de toute façon, la nature temporelle des flux soit tellement différente qu'il n'y a même pas de communication possible. Ça, ouais. C'est aussi une chose à envisager. Bon, mais là, je m'avance un peu sur la suite.
Oui.
En tout cas, cette idée de... Moi, j'ai bien aimé, là, cette idée de culture non extensive qui potentiellement...
Peut-être qu'il y a du monde, mais qui reste chez eux, tranquillou, sans se dire...
C'est ça, sans chercher à s'étendre. Et aussi parce qu'en réalité, une civilisation... Parce que c'est pas stable pour une civilisation de tout le temps s'étendre, en fait. Et c'est vrai que ça, on le voit, de toute façon.
Oui,
il suffit de le voir sur Terre. Exactement. Alors, l'île de Pâques a en plus une spécificité qui est que quand ils sont arrivés, ils ont détruit leur environnement, en fait. Ils l'ont surexploité, mais ça les a pas éradiqués.
Non,
ils ont quand même survécu.
Avec les Européens.
Par contre, ça leur a mis un gros coup d'arrêt à leur développement.
Okay.
Parce que d'un coup, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus machin, on peut plus chauffer, c'est compliqué. On a épuisé les ressources, mais ça ne les a pas tués. Ça les a freinés, brimés.
Oui, mais c'est ça, c'est comme. Je ne sais plus. Je vais rechercher si je retrouve ça, mais je sais qu'il y a eu une étude faite, il va falloir que je retrouve par qui disait que sur Terre, et en fait sur n'importe quelle planète. Si on entend qu'il faut une planète à peu près de cette taille pour qu'elle soit vivable, qu'une plus grosse ou une plus petite, ça implique d'autres choses. Enfin bref, mais si on prend la Terre un peu comme modèle, pour qu'une civilisation arrive au niveau de pouvoir aller dans l'espace, en termes de consommation de ressources, il y a un laps de temps très faible, de quelques années, quelques dizaines d'années maximum, où il faut faire les bons choix pour pouvoir partir dans l'espace. Et nous, on a plutôt fait le choix de faire des trottinettes électriques et des iPhones, en gros, quoi, avec les mêmes ressources, tu vois. On a du métal à disposition. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait des batteries pour des gadgets ou est-ce qu'on fait des fusées? Eh ben, on a plutôt fait des batteries. Donc, même si on se disait maintenant, allez, on part dans l'espace, c'est trop tard, il n'y a plus assez.
Tu veux dire, si on voulait envoyer toute la population dans l'espace, c'est ça, tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Ouais,
envoyer assez de.
Pour aller explorer et rechercher des minerais ailleurs que sur Terre.
Non, pour essaimer.
Non, pour essaimer, ouais.
Pour essaimer. Ah,
oui,
on
pourrait essayer de trouver, de capturer un stéroïde.
On n'y est pas, de toute façon, là, à notre stade de civilisation, l'idée d'essaimer, on n'y est pas encore.
Ah, bah non.
Puisqu'on en est à peine à se dire qu'on va peut-être réussir à aller sur Mars.
Oui, oui.
Alors, de là, essaimer dans la galaxie. Il y a de la marge, quoi. Donc là, on en est très très loin au niveau technologique. Alors en tout cas, c'était ça un peu le début de ces histoires, les cultures non extensives. Il y avait un autre, point aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est de dire qu'en fait, en moyenne, il y a un événement destructeur qui va se passer tous les 200 millions d'années pour une civilisation. Donc, par exemple, un sursaut gamma ou une supernova dans le voisinage. En tout cas, un truc fort qui, en fait, envoie suffisamment d'énergie pour, quelque part, stériliser la planète. Il n'y a plus de
vie, il n'y a plus rien. Catastrophe naturelle intense.
Voire la détruire, ou modifier son orbite, ou modifier... Bon, faire en fait en sorte que les formes de vie qui étaient là, en fait, ne peuvent plus y vivre. Donc là, ils estiment en moyenne dans l'univers, c'est tous les 200 millions d'années qu'un tel événement arrive. Alors moi, je suis un peu surpris parce que je trouve, nous, il me semble qu'on n'a pas été le Soleil.
200 millions, ça paraît.
Ouais. Et que donc, du coup, tous les 200 millions d'années, en fait.
Si la Terre a 4 milliards d'années, le système solaire a 4 milliards d'années, 200 millions, ça fait.
Nous,
c'est
on a
fréquent,
un été
quoi.
Plutôt préservé pour l'instant, mais en même temps, il y a 200 millions d'années, on n'avait rien pour détecter les sursauts gamma qui ont pu éventuellement avoir lieu sur Terre. Quoi. Donc, j'en sais rien. Mais c'est une statistique qui donne et qui est aussi un argument pour dire voilà, on peut peut-être aussi imaginer qu'en réalité, on n'a pas suffisamment le temps à cause de ces phénomènes en fait violents potentiellement. En gros, ça laisse une fenêtre de temps à une civilisation pour pouvoir essaimer et pour pouvoir se mettre entre guillemets à l'abri d'une extinction suite à un événement de ce type-là.
Oui, c'est ça, puisque la Terre a 4 milliards d'années, mais on n'est pas à la première extinction de masse non plus.
Non.
Ouais, aujourd'hui.
Après, ça, c'est des extinctions qui ont a priori des raisons plutôt terrestres. On n'a rien qui vient du ciel.
Ah oui.
Enfin, à
oui,
part aussi l'extinction des dinosaures avec quand même grosso modo l'idée d'une météorite. Mais même l'idée d'une météorite, c'est pas la même chose qu'une supernova ou un sursaut gamma.
En tout cas, il n'y a aucune raison de penser que ça viendrait d'ailleurs que sur Terre. Ouais.
Voilà. Donc il y a aussi cet argument-là qui est avancé pour dire que voilà, ça c'est un frein aussi au temps dont peut disposer une civilisation. C'est quand même ces événements cosmiques qui sont réels. Quoi. Alors je vais quand même mentionner l'équation de Drake parce que c'est en lien. Oui, c'est la même chose. C'est la même réflexion. Donc l'équation de Drake, Eric, tu avais fait une émission il y a un moment. Donc, j'ai oublié le numéro, mais il faudrait se plonger dans les archives.
En tout cas, les débuts de l'émission.
C'était plutôt vers les débuts, tu avais parlé de ça. Donc je vais en parler rapidement. L'équation de Drake, en fait, alors je vais quand même la donner. En fait, c'est quel est le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec lesquelles on pourrait éventuellement rentrer en contact. Alors pour calculer ce nombre, il faut prendre le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie, multiplié par la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, multiplié par le nombre moyen de planètes par étoile, potentiellement propice à la vie. Ensuite, on multiplie par la fraction de ces planètes sur lesquelles effectivement la vie est apparue. Ensuite, la fraction où on a une vie intelligente. Ensuite, une fraction où cette vie est capable et désireuse de communiquer. Et tout cela étant tempéré par la durée de vie moyenne d'une civilisation. Inutile de dire qu'il est absolument impossible de donner des valeurs précises à aucun de ces nombres. Sauf à part peut-être le taux de formation stellaire, et encore il y a discussion.
Mais c'est pas le but.
Voilà, c'est juste pour dire en fait l'idée c'est de fractionner les problèmes, de les séparer et de montrer les étapes qui sont selon nous nécessaires à arriver jusqu'à une civilisation, on va dire de stature galactique. Parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. Quoi. En tout cas, voilà cette équation de Drake qui pose le problème en fait. Il n'est pas résolu, mais il est posé et il est dissocié en différents problèmes.
C'est l'approche un peu statisticienne du paradoxe de Fermi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Après, dans Fermi, il y a plusieurs aussi hypothèses de...
J'y viens après. Alors, là, j'y viens, en fait, justement. En fait, il y a plein de gens qui ont essayé d'apporter des réponses, en fait. Mais on peut les classer, en fait, en trois catégories. Et qui sont ces trois catégories qui sont en fait une sorte de profession de foi face à l'existence ou des extraterrestres c'est... en fait en réalité.
Il y a ceux qui ont raison, ceux qui ont tort et ceux qui ont rien compris.
Ça c'est valable pour tous. Non, la preuve. En gros, il y a tout un tas d'explications qui disent que si on n'en observe pas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de civilisation extraterrestre. C'est un peu ce qu'on appelle aussi les hypothèses de la Terre rare. Ouais. Voilà, donc on en revient, en fait ça nous ramène à l'anthropocentrisme un peu
ouais.
Ça nous revient à dire toute cette immense évolution, tout ce grand univers en fait, il n'y a que nous qui sommes capables de l'observer puisqu'en fait nous sommes les seules consciences qui le peuplent.
Que nous qui sommes dignes.
Alors, il n'y a pas trop à épiloguer. On va juste mentionner que ça fait partie
des options
possibles. Mm-hmm. Et ensuite, il y en a deux. C'est soit, donc s'il n'y en a pas, ce qui reste, c'est qu'il y en a.
Ouais.
Voilà. Ouais. Et s'il y en a, là, il y a deux options. Soit ils existent, mais on n'est pas encore rentré en lien avec eux, on ne peut pas rentrer. Enfin, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas communication.
Ouais. Parce que la Terre, elle émet des ondes radio depuis une bonne centaine d'années.
Oui.
Et du coup, si on veut nous détecter, en fait, c'est...
C'est 100 années-lumière.
Voilà, et c'est très peu, en fait, même à l'échelle de notre galaxie.
C'est rien du tout.
C'est que dalle. Donc,
c'est rien du tout.
Ils nous ont peut-être pas encore vus.
Non, mais il est clair aussi que nous, on est... Enfin, si on commence à parler de civilisations technologiquement développées sur des échelles d'une galaxie, nous, on est très loin du compte. Donc, de toute façon, on n'est pas encore dans l'échelle de temps. où on fait partie de ces civilisations-là, si on y arrive un jour, sans parler des instabilités politiques, des problèmes internes à l'humanité qui s'autodétruit, etc., sans évoquer, même, parce que ça, il ne l'a pas mis, le nombre de civilisations non autodestructrices, par exemple, tu vois, ça pourrait rentrer aussi un peu dans les critères. Nous, bon, on a d'autres enjeux, mais en tout cas, on n'est pas du tout là, et effectivement, on n'est pas détectable à plus de 100 années-lumière, puisque voilà, le premier signal électromagnétique qu'on a émis, il a à peu près cet âge-là. Mm-hmm. Même si c'est 130 ou 150 ans, ça ne change pas grand-chose.
Oui.
Donc effectivement,
sur une galaxie d'un mètre, c'est les voisins de 1 mm qui peuvent nous voir. Quoi.
Quelque chose comme ça, voilà. Ouais.
On a dû toucher 30 étoiles, 40 étoiles de nous.
Ouais,
ce qui est déjà pas mal.
Quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment une infime grande poussière dans le cosmos. Ouais. Quoi. Mmh. Donc on peut très bien imaginer qu'il y a des civilisations à notre niveau technologique, il y en a tout un tas. On peut aussi en fait très bien imaginer plein de trucs, mais je vais détailler. Mais on pourrait dire par exemple que ces civilisations n'utilisent pas le rayonnement électromagnétique. Pour X raisons, et utilisent un type de rayonnement qu'on ne connaît même pas.
Oui.
Parce qu'il faut quand même être clair là-dessus. On ne sait pas du tout s'il n'y a pas des forces qu'on n'a même jamais supposées. Voilà, on n'en a aucune idée. Quoi. En tout cas, la deuxième option, c'est ils existent, mais on n'a pas encore communiqué. Et la dernière, c'est ils existent et ils communiquent déjà. Donc il y a quand même tout un tas de gens.
Attends, il y en a une aussi, c'est ils existent. Ils nous ont vus, mais ils n'ont pas envie de nous parler.
Alors, il y a aussi ça.
Il y a aussi ça. Mais
alors, après, on peut un peu rentrer dans les détails. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'extraterrestres, je ne vais pas revenir dessus. Là, on est vraiment dans une forme de postulat, en fait. De posture philosophique, en fait. Ouais. C'est pas vraiment de la science. En tout cas, la statistique, elle amène une probabilité écrasante pour qu'il y ait d'autres formes de vie sur Terre. Après, qu'est-ce que nous, on définit comme civilisation ? Je sais pas, je voudrais juste, moi, faire une petite remarque. Par exemple, si on regarde les aborigènes en Australie, vous regardez leur civilisation, leur peuple, leur culture, qui existe quand même depuis des dizaines de milliers d'années. Hein. C'est vraiment ancien. Ces gens n'ont absolument pas modifié leur environnement. Mais zéro. Ils n'ont pas construit une pyramide. Ils n'ont rien fait, en fait. Ce n'est pas leur philosophie. Ce n'est pas leur façon de vivre. Donc, des gens comme ça, qui sont, pour le coup, qui sont hyper stables hein, dans leur environnement, ils n'abîment rien. Leur mode de vie, il est ultra pérenne. Enfin, il était. Une civilisation comme ça, qui ne s'étend pas, qui n'utilise pas de technologie, qui ne modifie pas son environnement, comment tu vas faire pour la détecter ? Et en attendant, elle existe. Et non seulement elle existe, mais en plus, elle a une richesse énorme, culturelle. Voilà. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'il faut garder en tête. Quoi. Une civilisation, ce n'est pas forcément à l'américaine, tout un tas de vaisseaux spatiaux métal qui vont plus possible avec des têtes nucléaires sous les ailes, tu vois, pour aller essaimer dans toute la galaxie. Enfin, voilà.
ou détruire.
Voilà, c'est juste pour dire que ce schéma-là, il est quand même vachement réducteur. Quoi.
C'est vrai.
Donc voilà, c'est aussi cette idée-là. Donc ces extraterrestres n'auraient pas communiqué, soit parce que c'est compliqué, parce que c'est loin, parce que c'est tout ça. On a parlé aussi de ces histoires d'échelle de temps. Hein. Imaginons un extraterrestre qui une forme de vie qui a une durée de vie de 10 secondes. Par exemple, mais qui, je sais pas, pourrait une perception du temps complètement différente de nous et qui en fait vivrait des vies entières, mais en un temps très court, ou à l'inverse très long. Est-ce que ces personnes ont un corps physique ou pas ? Est-ce que la notion d'individu a un sens ? On commence à rentrer dans des trucs. En fait, c'est tellement ouvert. C'est quand même le. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça sert à. Enfin, sinon, je vais me mettre à délirer et lucubrer. mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que d'une façon générale. Dès qu'on parle de recherche de vie, de tout ça, le discours scientifique, souvent, moi, je le trouve un petit peu réducteur, en fait. Tu vois, comme par hasard, ils en arrivent toujours à la conclusion que pour qu'il y ait de la vie, en gros, il faut la Terre avec de l'eau. Quoi. En gros, tu es en train de me dire que, comme par hasard, tu me montres par A plus B qu'en fait, il faut qu'il soit comme nous. Quoi. Mais ça n'a pas de sens. Bon, bref. Même s'il y a des arguments hein, sur la chimie du carbone, sur tout ça... Oui, oui. Ça s'entend.
Le silicium.
Hein. Oui, bon, oui. On avait évoqué l'histoire du silicium, le fait que l'eau est un solvant. Effectivement, chimiquement, ça permet énormément de choses. Oui. C'est un solvant hyper particulier. Donc, tout ça, c'est clair. Il y a soit ils existent, ils n'ont pas encore communiqué, ou ils ne peuvent pas. Et moi, ça me semble, a priori, en tout cas, moi, c'est l'option qui me semble la plus intéressante ou la plus probable, quelque part. Effectivement, comme tu l'as dit, Pierrick, il y a à l'intérieur cette histoire de terre un peu réserve naturelle, terre zoo, où pour une raison ou pour une autre, en fait, on nous laisse tranquille. C'est-à-dire les extraterrestres, ils existent, mais ils se montrent pas, ils veulent pas interagir avec nous. Pourquoi ? Alors là, bon, on peut imaginer plein de choses, parce qu'on n'est pas assez développé, parce que... D'ailleurs, dans Flash Gordon, ça se passe comme ça au début, l'empereur Ming, il voit la Terre, en fait, et la Terre est considérée comme trop arriérée, donc ne fait pas partie de l'Empire Galactique.
Ah oui.
Et il leur envoie d'ailleurs tout un tas de... D'ailleurs, c'est le début... Je me rappelle ça, ça me revient. C'est le début du film, quand même assez mythique, hein. Flash Gordon, VO de Queen. Bon, bref, très kitsch. Le début du film, en fait, c'est l'empereur Ming qui dit voilà, je vais envoyer tout un tas de catastrophes sur la Terre qui sont clairement improbables. Et si ils arrivent à y voir la main, en fait, d'une puissance, oui. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment développés pour intégrer l'Empire Galactique. Sinon, ils vont être détruits parce que de toute façon, ils sont trop bêtes.
Et, ça va rien.
Donc, il y a quand même un argument intéressant au départ, quoi, de dire est-ce que vous êtes capable de reconnaître ma main? En fait, le fait que ce n'est pas naturel ce qui est en train de vous arriver, ou est-ce que vous n'êtes pas capable de le voir? Bon, voilà.
Je pense qu'on peut, on pourrait l'imager, le ramener à notre échelle aussi. Si tu vas pour écraser une araignée et qu'elle se retourne en disant « Non, s'il te plaît !» Bon, tu ne vas peut-être pas le faire. Par contre, si bon, les araignées ne disent rien quand on les écrase, donc on les écrase.
Donc, pourquoi tu veux les écraser? Donc voilà pour ce type.
N'écrasez pas les araignées.
N'écrasez pas les araignées, c'est la conclusion. Et puis donc bon, on peut rapidement quand même parler du troisième type de réponse qui dit ils existent déjà et en fait ils communiquent déjà. Alors là, moi je trouve qu'on rentre dans un terrain un peu vaseux dans lequel on va tout de suite penser ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gouvernements le savent et nous mentent.
Ah oui.
Ça c'est une des options, une des façons de percevoir cette chose. Bon, alors là on rentre dans tous les délires complotistes et compagnie. Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'en parler maintenant. Moi, je crois que s'il y avait réellement un vrai contact avec une civilisation extraterrestre, je ne vois pas pourquoi elle s'emmerderait à passer son temps à parler avec des chefs d'État qui ne sont quand même pas forcément les gens les plus intéressants du monde. Quoi. Mais
tout,
bon.
Tout en laissant des petits indices à droite, à gauche,
ouais,
pour que GG du 33 puisse retrouver ça sur Internet et dire « Regardez, c'est
ça, exactement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'une intelligence extraterrestre, donc a priori quand même plutôt supérieure, puisque plus développée que nous, vu que nous, on n'est pas capable de se déplacer très rapidement, l'espace comme ça, aurait envie de parler avec uniquement les gouvernements, reconnaîtraient ça. Enfin, bon, ça n'a aucun sens. Il y a aussi l'autre option qui est de dire qu'ils communiquent, mais ils ne communiquent pas avec tout le monde. Et qu'en fait, il y a des gens il y a quand même plein de gens hein, qui ont le discours de dire, enfin plein, il y en a.
Oui.
De dire moi j'ai eu telle rencontre, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et quand on se penche dessus, on peut pas se permettre de tout jeter avec l'eau du bain, quoi. Il y a des choses super quand même troublantes dans tout ça, donc je vais pas rentrer plus dans les détails, mais pour moi c'est trop facile de tout balancer en disant c'est n'importe quoi sous prétexte que quelqu'un d'autre n'a pas le même type d'expérience. Il y a des domaines où l'expérience n'est pas transmissible. C'est justement la spécificité de la science de faire qu'elle le soit. C'est-à-dire, je te dis, je me mets dans telle condition, avec tel matériel, je fais tel phénomène, on fait telle mesure, et effectivement, tout le monde va faire les mêmes. C'est ça la force de la science. C'est ça qui fait que ce n'est pas un point de vue, mais que c'est effectivement une description du monde réel, qui est vérifiable, reproductible. Mais si on rentre, par exemple, dans des domaines type spirituel, si on fait, par exemple, l'expérience de la méditation ou certains états dans lesquels la méditation peut nous amener, il est clair que ces états-là ne sont descriptibles qu'à quelqu'un qui les a déjà vécus. Sinon, on ne peut pas communiquer.
Ah oui, je pense qu'un bon scientifique, il s'en éloigne de ça. Enfin, il s'en éloigne.
Pas, il ne peut pas l'étudier. Ce n'est pas son objet d'étude, en fait.
C'est ça. Ça ne sert à rien de l'étudier.
Ce n'est pas son objet d'étude.
Ouais.
Donc, on peut très bien aussi imaginer. Et d'ailleurs, c'est le cas...
La question de foi aussi.
Tout ça. Ouais. Et donc, quels sont les degrés de perception, de sensibilité de chacun. Tout ça est très ouvert.
Bien sûr.
Et je rappelle que les Tibétains, pour eux, les extraterrestres, en fait, on les côtoie depuis super longtemps, mais eux, ils ne les mettent pas au fond de l'espace, ils les mettent dans des dimensions de l'espace-temps différentes. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des passerelles. Bon, là, on rentre dans un tout autre domaine qui n'est plus celui de l'astronomie, mais qui est connexe. En tout cas, dès qu'on parle de ces questions d'extraterrestres. Voilà, donc j'avais un petit peu envie de faire ce tour sur le paradoxe de Fermi. Évidemment pas pour y répondre, mais plutôt pour montrer en fait tous les questionnements que ça peut susciter. Et en espérant que ça vous donnera à réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a fait cogiter.
Tu pourras nous parler la prochaine fois du grand filtre, puisque c'est un peu la suite. Après le paradoxe de Fermi, on est dans les années 30. Là.
Ouais.
Après, on a eu le Drake. Le grand filtre. Non, mais je n'ai pas assez étudié le sujet pour le rester.
Je l'ai vu passer en préparant l'émission, effectivement, mais j'en ai pas assez pour.
Tu ou Jean en parlerait la prochaine fois.
Ouais, ça marche. Eh bien, on va vous laisser poursuivre votre dimanche tranquillement. Et on vous souhaite de belles observations. À la semaine prochaine.
Ciao.